On entame la deuxième table ronde qui appartitra maladies infectieuses une priorité. Après avoir eu un regard plus général sur l'impact des maladies infectieuses, on aimerait bien approfondir sur des exemples concrets d'épidémies qui nous menacent ou qui sont déjà en réalité plus ou moins dangereuses dans certains pays. Et surtout analyser si avec ces constats, les gouvernements ont fait des maladies infectieuses une priorité. On commence avec Laurent Codeville, bonsoir, directeur de la modélisation de la valeur du vaccin chez Sanofi Pasteur. Monsieur Codeville est expert en analyser les coûts des maladies pour un pays. Les coûts du contrôle vectoriel, les coûts des activités de prévention, l'impact sur l'activité économique d'une éventuelle épidémie, la perte des revenus, etc., etc. Il va nous montrer très en détail comment mesurer les coûts de la dengue.
Merci, bonsoir à tous. Oui, effectivement, ma présentation en fait va un peu compléter la présentation qui a été faite ou la première table ronde. Il parlait un petit peu de différents sujets sur les enjeux de la santé dans les pays émergents. Et c'est vrai que Lise Rochex a beaucoup parlé de l'évaluation économique. Et donc moi, je vais essayer de répondre à une question, c'est que coûte vraiment une maladie? Parce qu'effectivement, je pense qu'elle l'a dit à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quand même quelque chose qui est finalement difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et pour arriver à quelque chose qui soit vraiment utile pour aider à la décision. Donc c'est plutôt un exemple concret à travers le cas de la dengue. Alors je commence par vous présenter le moustique tigre. Donc le moustique tigre, c'est le vecteur qui est responsable de la dengue principale, il y en a un autre. Et alors la dengue, bon, je pense peut-être vous connaissez, mais vous n'êtes peut-être pas familier à cette maladie-là, parce que ce n'est pas une maladie qui est très présente chez nous, mais c'est quand même un enjeu de santé publique majeur. En fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 4 milliards de personnes qui vivent dans des pays à risque, ça fait 128 pays. On dénombre à peu près 100 millions de cas symptomatiques par an. Et c'est surtout en fait une maladie qui est en expansion rapide. En fait, on a 30 fois plus de cas de dengue aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et c'est écrit, il n'y a pas de traitement spécifique. En fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de traitement spécifique jusqu'à hier. Puisque effectivement, peut-être vous l'avez su, mais chez Sanofi Pasteur, on travaille sur ce sujet-là depuis 20 ans, sur le développement d'un vaccin. Et effectivement, hier, on a eu le premier enregistrement au Mexique pour ce vaccin contre la dengue. Donc c'est en fait un vaccin qui permet la prévention évidemment de la dengue chez les individus de 9 à 45 ans vivant dans les zones dites endémiques. Donc c'est un vaccin qui en fait nécessite l'utilisation de 3 injections à 6 mois d'intervalle. Et donc c'est on a démontré en fait avec ce vaccin dans le cadre d'essais cliniques dans 10 pays en fait la capacité à réduire de 65% les formes symptomatiques et jusqu'à 80% la réduction des cas hospitalisés. Donc en fait, on a maintenant, à travers ce vaccin, le moyen de répondre aux objectifs de l'OMS, qui consiste à essayer de réduire la mortalité de cette maladie de 50% d'ici 2020 et de la morbidité de 25%. Donc la maladie enjeu de santé publique majeur, on a maintenant un vaccin. La question c'est, est-ce qu'il faut investir ou pas dans cette vaccination? Alors avant de parler des coûts, peut-être on va parler un petit peu des bénéfices, parce que je pense que Lise Rochex a parlé de la valeur, donc c'est effectivement le rapport entre les coûts et les bénéfices. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les bénéfices de la vaccination? Alors premier élément, c'est aussi en soi un sujet qui est assez complexe, parce que pour mesurer véritablement les bénéfices de la vaccination, on va dire il y a la partie émergée de l'iceberg, on se fait vacciner, on a un risque moins de contracter la maladie. Mais il y a aussi un deuxième effet qu'on peut attendre d'une maladie infectieuse, et c'est un travail aussi d'essayer de mesurer cet élément-là, c'est le fait que puisqu'on a des gens qui sont vaccinés dans la population, en fait on peut réduire la transmission de la maladie et on peut par ce biais-là offrir une protection indirecte à l'ensemble de la population. Donc on a évalué en fait que si on parvenait à vacciner 20% de la population, on pourrait réduire de 50% des cas de dengue et donc être en phase avec les objectifs de l'OMS sur un horizon de 5 ans. Maintenant la question c'est de se dire, ok, d'accord, est-ce qu'on va y arriver? Alors il y a un certain nombre d'enjeux qui sont quand même compliqués. Première chose, je pense que ça a déjà été évoqué, c'est quand qui dit vaccination dit dépenser aujourd'hui et attendre des bénéfices demain. Donc effectivement, il faut déjà mettre de l'argent sur la table avant d'avoir des retours sur investissement. Deuxième idée, c'est que si on veut vraiment être efficace contre la maladie, il faut agir massivement, il faut des campagnes de vaccination importantes. Donc qui dit campagne de vaccination importante dit effectivement investissements qui sont non négligeables. Et par ailleurs, effectivement, on est dans un contexte de pays émergents pour l'essentiel, qui ont aussi d'autres problèmes à régler et qui n'ont pas forcément l'habitude d'introduire, d'être les premiers à introduire des vaccins innovants, en fait. Donc, effectivement, il faut, pour pouvoir un petit peu juger de la valeur, essayer d'avoir une idée un peu concrète de combien coûte cette maladie. Alors, je vais essayer d'être assez didactique pour vous balayer un petit peu les différents éléments qui constituent le coût de cette maladie. Première idée simple, on peut se dire, bah, c'est facile le coût de la maladie. Combien j'ai de cas ? Combien coûte chaque cas ? Ça y est, je fais la multiplication, j'ai mon coût de maladie. Et en fait, ça, c'est une, quand même que vraiment la partie émergée de l'iceberg. Parce que le deuxième élément qui est souvent très fort quand on essaie de mesurer le coût de la maladie, c'est qu'on commence par faire quoi ? On commence par faire de l'épidémiologie. Parce qu'effectivement, je crois que ça a été évoqué au début, c'est que finalement, le premier élément d'information qui est manquante, c'est combien il y a de cas, en fait. Et on voit, la dengue n'est pas différente de beaucoup d'autres maladies, que finalement, le nombre de cas qui sont déclarés officiellement sont bien inférieurs au nombre de cas qu'on a réellement. Donc on a des chiffres, on a des études. Donc effectivement, à chaque fois, je vous dis, derrière les chiffres que je vous présente, il y a des travaux spécifiques, il y a un effort de documentation qui a été fait. Donc on a, par exemple, de 20 à 80% des cas hospitalisés qui ne sont pas déclarés et de plus de 70% des cas ambulatoires. Deuxième élément, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver assez facilement dans les évaluations traditionnelles économiques, c'est de se dire, il y a effectivement le coût de la maladie, mais il y a aussi les pertes de production. Les gens sont malades, ils ne peuvent pas travailler, l'enfant est malade, donc effectivement, ça a des conséquences pour la famille. Et ça, c'est aussi des choses qui sont assez traditionnellement mesurées, mais qui finalement comptent beaucoup dans le coût d'une maladie. Ça peut être, dans les études qui sont disponibles sur la dengue, on se rend compte que ça représente plus de la moitié des coûts de la maladie. Donc déjà, si on veut essayer de mesurer le coût de la maladie, on a tous ces éléments-là. Et on tombe sur une évaluation, une estimation. Bon, après, effectivement, on peut toujours... c'est un exercice délicat, l'estimation, mais qui dit qu'effectivement, pour la dengue, on a un coût de 9 milliards. Alors on peut se dire, ça y est, là on commence déjà à avoir une idée un peu précise du coût de la maladie. Et c'est souvent ce qu'on met derrière dans l'évaluation économique, on est souvent dans ce périmètre-là. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a aussi bien d'autres choses qu'on vient de considérer. Bon, alors là, on reste un peu sur des choses qui sont assez traditionnelles. Si on parle d'une maladie comme la dengue, il y a aussi, effectivement tout ce qui est le coût de la prévention. Et le coût de la prévention lui-même, c'est les campagnes de surveillance, la fumigation, etc. Ça représente aussi un coût qui est aussi important. Donc là, on est avec des chiffres qui sont de l'ordre de 6 à 9 milliards de dollars. Là, maintenant, on est, on va dire, sur des coûts globaux, des coûts publics, peut-être, en partie. Il y a un élément qui est assez important aussi à considérer. Alors, ça peut être ou non pris en compte, mais c'est de se dire que finalement, c'est peut-être plus spécifique pour les pays émergents que par exemple, un pays comme en France. C'est que finalement, alors ça évolue un petit peu, mais comme en Chine, par exemple, mais on a, dans un certain nombre de pays, les gens qui n'ont pas accès à un système de santé performant. Et la conséquence, c'est que finalement, bah, ils doivent emprunter, contracter des dépenses personnelles par rapport à ça. Et c'est un coût qui est important. Par exemple, sur le cas de la dengue, on a des exemples au Cambodge où on voit, selon une étude, 67% des cas, les gens sont obligés d'emprunter de l'argent. C'est 43% en Inde. Et c'est non seulement des sommes qui sont empruntées, mais qui prennent du temps à être remboursées. Le chiffre, c'est 62% après un an. Donc comment intégrer ça au plus juste dans une évaluation économique ? C'est pas forcément toujours très évident. Alors, il y a aussi autre chose qui est un peu spécifique par rapport à la dengue. Et là, on rentre sur des choses un peu sur le lien qu'on a beaucoup évoqué pendant la première table ronde entre l'activité économique et les maladies. En fait, la dengue, comme d'autres maladies, c'est une maladie qui est très épidémique. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout d'un coup une explosion de cas sur un temps très court. Conséquence, on a une surcharge des hôpitaux, on a une forte documentation, c'est souvent dans des médias qu'on voit ça, qui nous dit « oh là là, c'est la catastrophe ». Deuxième idée, c'est qu'effectivement, ça peut avoir un impact sur l'activité économique au moment de l'épidémie. Maintenant, pour mettre un chiffre derrière dans une évaluation et s'assurer qu'on est capable de l'intégrer, et effectivement, c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est un sujet sur lequel il y a des choses qui se font, il y a du travail, mais pouvoir le mettre directement avec un coût dans une évaluation économique, c'est compliqué parce que, qui par nature épidémique, on ne peut pas forcément prévoir où aura lieu la prochaine épidémie. Mais c'est un coût important. Autre chose, alors je ne vais pas balayer l'ensemble des conséquences économiques, mais Pour ce qui est de la dengue, il y a un sujet qui peut être important, c'est le tourisme. En fait, il faut savoir que c'est quand même une maladie qui est très présente dans les tropiques, avec des pays qui ont une activité économique liée au tourisme importante. Et on a quelques exemples, on ne l'a pas de manière systématique, mais qui montrent que finalement, le tourisme étant une activité économique est importante, le simple fait que cette maladie impacte le tourisme peut être plus fort que le coût de la maladie lui-même. On a des exemples en Malaisie, en Thaïlande et en Floride. Et donc c'est effectivement ce lien entre la capacité de la santé d'impacter l'activité économique, c'est quelque chose qui est souvent difficile à mesurer, mais qui est majeur. Et alors je ne sais pas exactement ce qu'ils ont souhaité mettre en place dans la mesure élargie, mais je pense que s'il y a bien un domaine sur lequel il faut travailler, c'est sur ce lien-là. D'être capable de voir dans quelle mesure, en agissant sur la santé, on a un impact sur l'activité économique. Donc voilà, c'était à peu près en résumé ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, à travers l'exemple concret de la dengue, avec quelques points à retenir. Déjà, bien connaître les coûts de la maladie, on en a parlé, c'est important pour les décisions d'investissement en santé. On a aussi cette idée que il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on a souvent envie de mettre derrière le coût de la maladie. L'impact sur l'activité économique en est un bon exemple. Alors autre chose, je ne sais pas si c'était apparent à travers cette présentation courte, mais c'est que finalement, mettre des chiffres derrière, dans toutes les maladies, et prendre les bonnes décisions, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments à documenter, il faut avoir une bonne connaissance de l'épidémiologie, il faut aller chercher des informations dans des systèmes un peu défaillants, et l'évaluation elle est très importante, mais le problématique c'est effectivement de vraiment la rendre concrète parce qu'on a des informations à partager. Alors, autre point que je voudrais aussi évoquer, c'est que finalement, il y a aussi une autre dimension qui est à prendre en compte, c'est que finalement, les décideurs en santé, on peut dire, forcément, un décideur, il a l'intérêt de la collectivité. En fait, c'est vrai comme c'est faux. On va, alors c'est dans le cas du vaccin, on a affaire à un ministre de la Santé qui gère un budget de la santé. On lui parle d'activité économique liée au tourisme, il se dit « Ah oui, mais est-ce que c'est mon problème à moi ?» Donc on peut avoir aussi cette problématique de faire en sorte que l'ensemble des enjeux, déjà les gens soient visibles et qu'ils sachent les intégrer, que ça soit partie prenante de la décision et qu'on n'ait pas une décision qui soit un peu morcelée et qui fait que finalement on n'a pas, comme l'a dit Lise un peu plus tôt, les bons investissements en santé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous.
Donc, la dengue, c'est un des exemples des maladies d'aujourd'hui. Aux années 50, il y avait quelques dizaines de pays où était endémique. Maintenant, je crois que c'est 90 pays au monde, plus la moitié de la population qui est au risque. Et ça, c'est à cause de la mondialisation, de le changement climatique, de l'urbanisation, de la globalisation, des échanges. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça?
Tu dis, c'est que c'était pour Sadovie Pasteur un investissement à haut risque, puisque les affaires réglementaires qui me sont chères forcent le laboratoire, avant de faire une clinique, de produire, déjà d'avoir les lieux de production au préalable. Je crois que c'est un investissement, si mes souvenirs sont bons, de 350 millions d'euros.
Non, il y a eu la construction de l'usine.
À Deauville.
Oui, voilà, notamment, et puis les essais de phase 3.
À Deauville, l'aménagement, et ça a été le premier gros chèque qu'a fait Chris Rubacker.
Voilà, oui.
Quand il est arrivé, il m'a toujours dit, celui-là, j'espère qu'il va être rentable. Donc, il y a un risque énorme pour y arriver. Et ça permet quand même d'avoir aussi une production. J'en suis assez fier parce que c'est la famille qui l'a initié. Et c'est une production, je dirais, qui est à 95-97% exporté, les productions des vaccins faits à Lyon. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour... J'ai bien retenu, madame, le chiffre, c'est 97. Hein. J'en étais à 90, mais 95, 97 maintenant. C'est ça? Il y a beaucoup d'individus dans cette pièce qui sont relativement... Non, mais c'est quand même... C'est une belle réussite. C'est une saloperie, parce que Christophe l'avait eu en Inde. C'est la deuxième piqûre qui est la plus mauvaise, hein, je crois, qui amène...
Oui, c'est ça. En fait, effectivement, ce qu'il dit, c'est que c'est la seconde fois qu'on est
contaminé, à ce moment-là, vous avez...
C'est vrai que dans les pays où la dengue est présente, tout le monde la connaît.
Il l'a eu en Inde et il s'est auto-diagnostiqué une dengue, mais qu'il avait beaucoup marqué. Hein. Mm-hmm. C'est assez
tout à fait, ouais.
On passe maintenant à Bruno Lina, directeur de l'unité de recherche BIRPAT et professeur et praticien hospitalier en virologie à l'Université de Lyon. Vous avez une vaste expérience en virologie et vous êtes notamment un des experts de l'Organisation mondiale de la santé en question d'influenza pandémique et de l'éradication de la polio. Vous êtes expert aussi sur la dengue qu'on vient d'évoquer. Donc spécialiste en virus, quelques-uns d'entre eux très en puissance, comme les syndromes respiratoires des Moyens-Orient, qu'on connaît comme les MERS, ou la grippe aviaire, qu'on connaît ces jours-là à cause du Japon, et d'autres virus comme la polio qu'on espère au point d'être éradiqué. Donc, on va parler d'abord des infections respiratoires. Les dernières 15 ans, chaque 2-3 ans, on croit qu'on est fini et elles réapparaissent, les SARS, la grippe aviaire, les H1N1, les MERS à nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce type de maladies infectieuses?
Je ne sais plus trop, à un moment donné, quelqu'un avait dit le 21e serait le siècle des maladies respiratoires. En fait, c'est la conjonction de plein d'événements qui s'accumulent les uns avec les autres, dont certains ont déjà été évoqués. Premièrement, l'hyper-urbanisation. Le fait qu'on se retrouve très nombreux dans des villes, et comme les infections respiratoires sont des infections qui sont en général transmises de l'homme à l'homme, plus on est nombreux au même endroit, plus ces épidémies ont des capacités à se développer. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi, dans un certain nombre de pays, de la promiscuité qui existe entre le monde animal et l'homme, et un très grand nombre de ces virus émergents sont des virus zoonotiques, c'est-à-dire que c'est des virus qui sortent du réservoir animal avant d'aller infecter l'homme. Et pour une part d'entre eux, heureusement une part d'entre eux seulement, certains sont capables de s'adapter dans le nouvel hôte et d'entraîner des chaînes de contamination et des chaînes d'infection. C'est le cas pour les grippes qui sortent du réservoir animal. Alors la dernière était, je dirais, une pandémie un petit peu manquée du point de vue virologique, si on doit voir ça du côté de l'agresseur en quelque sorte. Pour des raisons qui sont liées au fait qu'il s'agit d'un virus qui en fait avait déjà circulé chez l'homme et il a été réintroduit à distance après chez l'homme. Mais que si on reprend les pandémies du XXe siècle et pas celles du XXIe siècle, à chaque fois c'était un virus qui sortait du réservoir aviaire et ces animaux hébergent un nombre faramineux de virus qu'ils de temps en temps qu'ils transmettent à l'homme. Heureusement, ce sont des phénomènes exceptionnels. À côté de ça, on a les phénomènes émergents comme le MERS et le SRAS. C'est des acronymes pour des virus qui sont des coronavirus et qui sortent d'un autre réservoir gigantesque qui est méconnu mais qu'on connaît de mieux en mieux maintenant, c'est la chauve-souris. La chauve-souris est une bête qui présente une particularité extrêmement intéressante du point de vue de la recherche. Elle a un système de défense immunitaire qui est extrêmement performant. Ce qui fait que les chauves-souris ne font pas de cancer, et ce qui fait qu'elles sont capables d'héberger des pathogènes sans qu'elles soient malades. Mais le problème, c'est que quand ces pathogènes se diffusent dans des colonies de chauves-souris qui représentent des dizaines de milliers d'individus, qu'il s'agit de virus qui sont dans les déjections ou dans la bouche des chauves-souris, que derrière celles-ci vont manger des fruits, vont au contact d'autres animaux, ils peuvent transmettre ce virus à un animal intermédiaire, c'est-à-dire que l'homme ne se contamine pas à partir de la chauve-souris, mais il se contamine à partir d'un animal qui a été contaminé lui-même par la chauve-souris. Pour le SRAS, c'était un animal consommé qui s'appelait la civette, qui est un animal consommé par les Chinois. Et pour le MERS, c'est les dromadaires. Et les comportements qu'on a avec les dromadaires, qui sont des animaux de compagnie là-bas, font qu'on s'expose de temps en temps à de la contamination parce qu'on boit du lait de chamelle non stérilisé, parce qu'on est au contact de ces animaux malades. Il faut bien comprendre que dans les élevages qu'on a de dromadaires en Arabie Saoudite et dans toute la péninsule arabique, en fait, pratiquement tous les animaux sont contaminés. Mais heureusement, ce virus, il donne des cas à l'homme, mais il n'y a pas de chaîne de transmission qui s'installe. Donc on est sauvé par ça. Le problème de la maladie virale émergente est vraiment quelque chose qui est fondamental. On est confronté à ça, juste pour recontextualiser, par l'urbanisation, par la densité de population, par la déforestation, par le fait qu'on est au contact d'animaux qu'on ne côtoyait pas avant, par le fait que les outils diagnostiques sont nettement meilleurs, que la prise en charge des patients aussi s'améliore, donc on a envie de soigner les personnes qui sont infectées avec le, avec le MERS, avec le SRAS, mais aussi avec Ebola, avec la dengue, avec le virus Zika, avec tous ces pathogènes émergents. Et c'est un gigantesque chantier qui est formidable. Il faut continuer à faire de la recherche, hein, c'est bien, là-dessus, à la fois sur l'aspect immunologique de la défense, mais aussi pour la compréhension des mécanismes pathogènes. C'est passionnant tout ça, ces virus émergents, et les virus respiratoires émergents encore plus que les autres.
Ça se voit que vous êtes passionné. Vous voulez nous parler aussi des fièvres hémorragiques pour retourner un peu à la dengue?
Oui, alors, j'ai une toute petite expérience de dengue, peut-être un petit peu plus d'Ebola, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Conakry pour rencontrer un petit peu des gens qui étaient au contact des malades. Je suis allé à Macinta, qui était un des foyers épidémiques initiaux. Je suis allé voir le centre de traitement là-bas, qui était tenu par la Croix-Rouge, avec des personnalités extraordinaires sur place. J'ai été aussi à Donka, qui est l'hôpital de Conakry, qui a pris en charge les derniers patients. J'ai pu voir le centre de traitement des soignants aussi, qui était mis en place par l'armée française, qui était un truc invraisemblable. Comment construire un P3 en plastique au milieu de la jungle? C'est hallucinant. On a des ressources qui sont importantes. Et surtout, ce qui était très important, c'est qu'au départ, dans ces pays où la structure sanitaire était effondrée par des dizaines d'années de guerre, et ça vaut pour les trois pays du Golfe de Guinée, on se rend compte que quand émerge un pathogène comme ça, ils sont démunis d'emblée. Et en plus, comme c'est les soignants qui vont prendre en charge les malades, les soignants se contaminent et la ressource sanitaire s'effondre à toute vitesse. Et donc la réponse internationale qu'il y a eu là-dessus était très importante. Ce qui est caricatural de cette épidémie, qui a surpris tout le monde. Personne ne pouvait imaginer qu'une épidémie Ebola puisse donner plus de 10 000 cas. Parce que jusqu'à présent, les dernières épidémies qui avaient eu lieu, c'était 200, 300, 400 cas. C'est de nouveau le côté urbain. C'était uniquement dans des petites régions très localisées où finalement, il y avait 10% de survivants, tous les autres étaient morts, mais pas de possibilité de transmission. Et là, la maladie a été importée dans les zones urbaines et ça a entraîné de la transmission de façon importante. La deuxième chose qui est extrêmement importante, dont il faut se rappeler, et c'est un travail qui a été fait à Lyon par l'équipe de Sylvain Baize au P4, toute cette épidémie est née d'un patient. Il y a eu un cas au départ, et c'est ce cas tout seul qui a été responsable de tous les autres cas du fait de transmission interhumaine par défaut d'hygiène. Et là, on tombe sur le nœud du problème, qui rejoint un petit peu la discussion qu'il y a eu avant, l'hygiène et toutes les composantes de l'hygiène, l'hygiène des mains, mais l'hygiène de la boisson, l'hygiène sanitaire, l'hygiène intellectuelle par le fait qu'on apprend ce qu'est une maladie infectieuse, et le verrou qu'il faut lever pour faire comprendre comment lutter simplement contre certaines maladies infectieuses. Je finirai avec ça. Le SRAS a été contrôlé simplement parce qu'on a mis les mesures d'hygiène en place. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. On a mis des mesures d'hygiène et on a bloqué l'épidémie.
Donc on a fait la même chose avec l'Ebola, mais avec 2 ans de retard. Si je me permets une question avant de passer au troisième intervenant, un exemple personnel, j'étais là en avril quand l'OMS nous informait des premiers cas d'Ebola, qu'après on a su que c'était en décembre antérieur, mais l'épidémie n'a été pas annoncée jusqu'en septembre, alors on a perdu les premiers 4-5 mois, et après 5-6 mois, sans que vraiment on a personne. Il n'y a pas eu une réaction comme il fallait. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas prévenir cette ampleur, mais oui, on aurait pu prévenir et peut-être réagir plus tôt et plus à grande escale.
Alors, je suis obligé de jouer un petit rôle, le rôle de défenseur de l'OMS.
Hein. Allez-y.
Deux choses. L'OMS avoue avoir pris du temps à prendre la mesure de l'épidémie, tout simplement parce que c'était compliqué, que l'OMS n'était pas prête à prendre en charge une épidémie de cette ampleur dans une zone en Afrique où la présence de l'OMS, même si elle existe, elle n'est pas très importante. Et de nouveau, les ressources sanitaires sur place faisaient des relais qui étaient assez pauvres. Et on doit vraiment remercier Médecins sans frontières d'avoir tiré régulièrement la sonnette d'alarme en disant « il se passe des choses, il se passe des choses ». Bon, Médecins sans frontières a joué un rôle, mais d'un autre côté, ce n'est pas toujours simple de travailler avec Médecins sans frontières non plus. La deuxième chose, c'est que l'OMS essaye de tirer des leçons. J'étais en Italie il y a une semaine. L'OMS a mis en place une structure qui s'appelle EDCARN. Bon, c'est un acronyme de plus. Il s'agit en fait de tirer les leçons de l'Ebola et du MERS et du coronavirus, du SRAS aussi, en se disant, finalement, qu'est-ce qu'il a manqué ? Il a manqué des enquêtes épidémiologiques de terrain qui soient suffisamment robustes pour pouvoir dire qu'il se passe un phénomène épidémique. Et il a manqué aussi des éléments de réponse pour contrôler l'épidémie. Outre les mesures d'hygiène, les protections, l'éducation sanitaire, faire expliquer à la population les chaînes de transmission, les conduites à risque, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de comprendre d'un point de vue purement d'abord relations humaines et la compréhension de comment les malades sont pris en charge là-bas, quels sont les rites funéraires qu'on a là-bas, quelles sont les habitudes qu'ils ont là-bas pour essayer de se transposer et de passer des messages qui soient acceptés par eux. Quand on a un rite funéraire qui dit que depuis 5 siècles, on doit embrasser les morts avant de les enterrer, et que vous avez des personnages déguisés en blanc qui viennent prendre en combinaison blanche, qui viennent ramasser les morts et qui disent non, mais vous ne devez pas y toucher, c'est incompréhensible pour ces populations. Donc il faut qu'on utilise toutes les ressources des relations humaines qu'on peut mettre en place avec les connaissances de terrain. Et la deuxième chose qu'on essaie de mettre en place, c'est une réaction cette fois-ci du monde riche pour aider les pauvres. De toute façon, si on veut éviter d'avoir des problèmes d'Ebola chez nous, il faut le régler là-bas. Donc de mettre en place des essais cliniques en temps réel, du développement de vaccins en temps réel pour qu'on puisse les faire pendant l'épidémie. Parce que maintenant, l'épidémie, elle est arrêtée. Plus personne ne va financer un vaccin contre Ebola. Ça n'est plus le problème. Le problème, ça va être le MERS parce qu'il va y avoir des cas, ça va être la dengue parce qu'il risque d'y avoir des choses à faire sur la dengue pour mieux mesurer l'impact de la vaccination. Et on va oublier Ebola. Donc les traitements anti-Ebola vont arrêter leur développement, le vaccin va arrêter leur développement. Et si on met tout en stand-by et qu'on attend de nouveau que la nouvelle épidémie commence et qu'il y en aura une autre, on sera plus en capacité de répondre. Donc l'idée de l'OMS, c'est de mettre des outils théoriques en place qui permettront de réagir très rapidement à la fois sur les enquêtes épidémiologiques de terrain et sur la réponse sanitaire avec des médicaments et avec des vaccins.
C'est sûr que vous avez beaucoup à dire sur ça.
Alors, d'abord, ce que j'ai apprécié, c'est que le professeur Lina a bien dit que je crois 60-70% des infections qui touchent l'homme sont d'origine animale, d'où l'importance d'avoir des liens étroits entre la médecine humaine et la médecine animale, n'est-ce pas Myriel ? Fin de parenthèse. Deuxièmement, ça nous rend quand même très humbles. Moi, il y a un exemple d'une pathologie. Quand je suis rentré de mon service militaire, il me restait un an d'internat à faire en biologie, et j'avais choisi Jules Courmont, parce que c'était la tuberculose, et que la tuberculose, c'était terminée. 63, PAS, trepto, rumifon, la tuberculose est une maladie éradiquée. Les SANAT fermaient. Aujourd'hui, à travers le monde, la première pathologie, c'est la tuberculose XMDR, c'est-à-dire la multirésistante. On avait oublié que les bactéries mutaient et devenaient résistantes à tout. Et on a désarmé, l'industrie pharmaceutique a totalement désarmé l'antibiothérapie pendant très longtemps. Et maintenant, on réarme, mais un peu tard. On est toujours en retard d'une guerre par rapport aux virus, aux bactéries. Ils vont plus vite que nous.
Hein. Absolument, absolument. Ils n'ont pas de cerveau, mais ils sont plus malins.
On va passer finalement à notre dernier intervenant pour laisser la place après au débat. Monsieur Benoît Miribel, directeur général de la Fondation Mériot. La Fondation a pour but de lutter contre les maladies infectieuses qui affectent les pays en développement. Et sa mission est le renforcement des capacités locales des pays émergents pour réduire l'impact des maladies infectieuses sur les populations vulnérables. Donc, pouvez-vous nous raconter quelle est l'approche de la Fondation en nous donnant des exemples concrets de réussite sur le terrain ?
Disons que l'approche de la Fondation, elle se situe en partenariat avec les partenaires que l'on vient d'entendre, les industries, l'Université de Lyon, la recherche, les capacités doivent être conjointes. Face aux enjeux, on sait qu'un acteur seul, que ce soit MSF, un ministère de la Santé guinéen, un chercheur, un centre de recherche, n'y parviendra pas. L'enjeu est très très fort. Monsieur Mérieux évoquait à l'instant la tuberculose, et on évoquait des rites en Afrique de l'Ouest. La tuberculose au Tadjikistan, c'est une incompréhension des autorités qui disent « Vous voulez mettre un laboratoire à Douchanbé contre la tuberculose, mais vous allez nous amener la tuberculose. » Donc il faut leur expliquer qu'elle est partout déjà la tuberculose. Et que on va pas l'amener. Si on l'amène en laboratoire, c'est bien pour poursuivre les MDR, les XDR, mais qu'elle est là. et que le problème, il y a un problème aussi social, c'est que les jeunes femmes, notamment, ne veulent pas se faire détecter parce qu'elles ont peur, dans ce pays, que si elles sont détectées tuberculose, de ne pas se marier. Donc, on ne veut pas se faire détecter parce qu'à chaque fois, effectivement, on va buter sur ces réalités-là qui nécessitent une approche holistique. Si on parle de la dengue, puisque ça a été évoqué, pour que le vaccin dengue-vaccin qui vient d'être reconnu, pour qu'il soit un succès, il faut qu'il soit approprié. Donc, c'est une approche holistique. Donc, la Fondation Mérieux, qui agit depuis près de 50 ans dans les pays en développement, avec un engagement fort de la famille Mérieux, se situe dans ce cadre-là, dans les pays en développement, parce qu'il faut d'abord beaucoup de formation, il faut transmettre les savoirs, transmettre les connaissances, qui sont parfois simples, l'hygiène, voilà, on l'a évoqué, c'est assez simple, il faut transmettre ces connaissances-là. Il faut s'assurer que des personnes, par exemple à Madagascar, avec la Fondation Pierre Favre, 5 universités françaises, il a été relancé l'enseignement en pharmacie. Bon, les pharmaciens sortent, et ils ont déjà une capacité de lutter contre toutes les petites boutiques qui font n'importe quoi, qui d'ailleurs véhiculent les faux médicaments et qui empêchent de véritables diagnostics, de véritables traitements. Mais il faut aussi que, avec cette faculté de pharmacie, ces étudiants qui sortent, qui sont brillants, puissent avoir une carrière, un avenir dans leur pays. Donc il faut qu'il y ait une responsabilité du ministère de la Santé pour les orienter également en province. C'est juste pour évoquer un autre aspect complémentaire de cette approche contre les maladies infectieuses, hein, qui encore une fois est une chaîne de partenaires pour que ça réussisse, vu les enjeux, avec bien sûr des organisations comme MSF. Et MSF a fait un travail formidable d'urgence en Guinée, sans toutefois renforcer les capacités du ministère de la Santé guinéen, de son réseau de laboratoires, parce que c'est pas leur façon de travailler à MSF, et encore une fois, ils ont de grands atouts, il faut saluer ce qu'ils ont fait, mais donc chacun a ses limites de compétences, de capacités, et c'est vrai que lorsqu'on entend au mois de mai le ministre de la Santé de Guinée dire « oui, effectivement, en Guinée, la santé pour le gouvernement, c'est 2%, eh ben, c'est pas normal, c'est même un scandale de santé publique, vu les enjeux. Et quand on fait un audit des laboratoires en septembre l'an dernier, on constate que dans les 18 régions, les laboratoires ne fonctionnent pas. Les gens ne sont pas formés, ils n'ont pas les outils. Donc voilà. Donc ça, c'est un point très important dans la chaîne de la surveillance, de la prévention, le diagnostic avant le traitement. Et donc, nous avons beaucoup d'actions dans ce domaine-là, dans différents pays. C'est en ce moment un programme qui est mis en œuvre, qui est suivi de près par notre président Alain Mérieux, c'est le Liban, c'est la Syrie, les camps de réfugiés, vous avez près de 2 millions de personnes, on parlait des infections respiratoires, les pneumonies, les pneumocoques qui peuvent survenir, donc il faut être attentif aussi à cette surveillance, à la prévention, à la surveillance, et donc on a un programme qui est en train d'être monté avec 6 organisations libanaises qui sont implantées dans le pays pour faire cette surveillance-là. Un programme qui est important, de même qu'il y a un souhait aujourd'hui de l'Iran de se doter de capacités à Téhéran, en capitale, avec un P3. Donc une expertise va être apportée à l'Institut Pasteur de Téhéran pour un laboratoire P3. Et puis également à Zaidan, un centre de formation avec un laboratoire, parce que Zaidan s'est situé vers la frontière du Pakistan, pas loin de l'Afghanistan, et parce qu'au Pakistan, en Afghanistan, les gens ne sont pas diagnostiqués, ne sont pas soignés, ils franchissent la frontière, également parce que le Baloutchistan est à cheval sur les deux pays. Les Iraniens disent on ne peut pas refuser, ce sont nos frères, on ne peut pas bloquer les frontières, donc on doit les soigner, mais on doit aussi transmettre nos savoirs formés dans le pays d'à côté. Donc le vaccin dengue, qui est une avancée, va réussir en approche holistique si les personnes sont formées, s'il y a une compréhension de ce qu'est le vaccin, s'il est suivi. Et c'est là où on voit une alliance de la recherche en épidémiologie, en surveillance, sur ces terrains qui sont, comme le rappelait M. Mérieux, sans frontières entre la médecine animale et humaine et sans frontières géographiques. Et ça, Ebola nous l'a rappelé, l'aspect sans frontières géographiques. Il se trouvait que j'étais en septembre aux États-Unis l'an dernier, quand il y a eu le premier cas d'Ebola sur le territoire américain, effectivement, ça a pris une ampleur considérable et ça coûte beaucoup plus cher quand on réagit en urgence. Il y a le poids économique, hein, l'Afrique de l'Ouest a beaucoup perdu. Au quotidien, de façon silencieuse, des pays perdent. On l'a vu de par l'impact de la santé, des maladies infectieuses sur la santé. La France donne quand même 380 millions d'euros au Fonds mondial, qui a au départ trois maladies prioritaires. tuberculose, HIV, donc le sida et la malaria, qui doit aller de plus en plus vers aussi d'autres maladies. Il y a de nombreuses maladies tropicales négligées. Et puis, il y a surtout le besoin de travailler en horizontal, parce qu'on évoquait différentes maladies, et le point commun, si l'Ebola s'est éteint en Afrique de l'Ouest, il peut se réveiller, en attendant il y a la dengue, mais le point commun, c'est quand même le système de santé. Et là, je crois qu'une des grandes leçons de l'an dernier d'Ebola, c'est la fragilité des systèmes de santé, des personnels pas formés, pas équipés. En particulier, nous, on le voit beaucoup dans le domaine que l'on connaît bien, le diagnostic, dans différents pays. Et donc, ça, c'est un enjeu horizontal. Et on se dit qu'il y a vraiment une accélération qui est nécessaire. Parce que, je terminerai là-dessus, nous étions encore à l'OMS vendredi dernier pour tirer les leçons d'Ebola. L'OMS est poussée par les gouvernements, réfléchit à différents modèles dans l'urgence. C'est nécessaire, c'est très bien. Mais au-delà d'urgence qui coûte de toute façon très cher, il y a la lame de fond de pouvoir travailler sans frontières entre la médecine animale et humaine, sans frontières géographiques, sur ces priorités. C'est effectivement, quand on fait la somme, un chercheur nous le montrait, depuis 200 ans, quelle est la maladie infectieuse qui a le plus tué au monde ? Eh bien, c'est la tuberculose, depuis 200 ans. Après, bien sûr, en fonction des périodes. Et là, on est trop désarmé dans certains pays, il y a un manque de capacité, alors qu'il y a, on a cité Ogobara Dumbo, on peut citer le professeur Bill Pape en Haïti, on peut citer Firdousi Quadri au Bangladesh. Il y a, heureusement, dans la plupart des pays, dans tous les pays du monde, finalement, des personnes motivées, compétentes et qui ont besoin de cette solidarité au sens du lien scientifique pour pouvoir avancer. Et quand on avance avec eux, on le constate quotidiennement, on apprend, on s'enrichit, parce que face à ces maladies infectieuses, c'est un questionnement permanent.
Vous voulez réagir ?
Non, mais juste pour renforcer ce qui a été dit, c'est vrai que très clairement, pour ce qui est de Sanofi Pasteur, pour le vaccin contre la dengue, on a un peu cette idée de se dire on n'est pas, c'est pas le vaccin qui vient remplacer le reste, ça vient se rajouter à ce qui existe déjà et l'idée de compléter, par exemple, le contrôle vectoriel. Donc c'est un peu en cohérent à ce que vous venez de dire, en fait.
Sur ce sujet-là, et après je vous donne la parole, récemment, quand ça a débattu les vaccins contre la malaria, tout le monde, chaque fois qu'on en parle, on dit attention, mais il ne faut pas arrêter les autres moyens de prévention, il faut continuer avec les moustiquaires, il ne faut pas désinvestir, si je peux dire ça en français, dans les autres moyens de prévention, parce qu'en plus que les vaccins, ce n'est pas trop effectif, on ne peut pas perdre ce qu'on a fait et ce qu'on a. On est consciente de ça.
Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement, de toute façon, enfin là, ça rejoint un peu ce qu'on dit, ben, pour ce qui est de la dengue, de manière précise, c'est vrai qu'il y a le contrôle vectoriel, etc. Donc c'est très clair que dans ce que la façon dont nous, on parle de la maladie, on parle du vaccin qui vient en complément de ce qui existe déjà, pas en remplacement, effectivement. Et on n'a jamais, on n'est pas décideur de l'ensemble des choses, mais c'est arrivé assez fréquemment qu'on a affaire en face des responsables de santé qui disent « Ah, ben, le vaccin arrive, donc on va pouvoir arrêter le contrôle vectoriel ». Sur lequel il y a des questions qui peuvent se poser. Effectivement, non. En fait, ce n'est pas du tout la façon dont, en tout cas, nous, on conçoit la chose en disant que c'est quelque chose qui vient se rajouter en plus, pas quelque chose qui vient remplacer. Ouais.
Et c'est vrai que ça permet de franchir une nouvelle étape, puisque, effectivement, c'est, je crois, 1,5 milliard au total que vous avez investi dans la dengue, à partir de l'usine de 350 millions. Je crois que l'audition se situe de cet ordre-là aujourd'hui. Donc, c'est l'engagement d'une industrie, c'est son rôle de pouvoir prendre ses risques et l'amener. Et nous sommes 5 fondations au niveau international, la Fondation Gates, la Fondation, le Wellcome Trust, qui est aussi une fondation britannique, la Fondation Carlos Slim, mexicaine, la Fondation Mérieux, et j'en oublie une autre, une cinquième, et pour créer une alliance de fondations sur le domaine de la dengue, pour créer un consortium global, parce qu'on peut s'appuyer là-dessus. Mais on sait que le vaccin, c'est un aspect, techniquement, et que c'est, donc ça permet de franchir des échelles différentes. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, parce qu'on va tirer des enseignements du vaccin une fois qu'il est... Donc c'est aussi cet enchaînement qui permet de progresser.
C'est un exemple. Enfin, je pense que ça a été dit à de nombreuses reprises ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui contribuent à lutter contre les maladies. Et là, c'est a priori un exemple de cet ordre-là. Quoi.
Donc, je voudrais simplement que... on parlait tout à l'heure pays développés, pays émergents. On se rend compte que pour faire un diagnostic de ces agents pathogènes, il faut des laboratoires hautement protégés. Alors on a un P4 à Lyon, c'est le seul qui a pu travailler l'Ebola, on a travaillé avec les Chinois, mais à Lyon. On a isolé d'ailleurs l'Ebola avec un échantillon qui est des MSF à Lyon, au P4 de Lyon. Et on crée, par exemple, pour la tuberculose, il faut travailler sur des laboratoires P3. Et je dirais qu'on est... Donc il faut une sophistication assez grande dans des pays émergents pour faire face à ces épidémies. Donc c'est un travail qui demande vraiment une approche totalement transversale où on travaille en équipe. Par ces laboratoires, il faut non seulement les créer, mais il faut les garder en maintenance pour qu'ils soient de qualité. Il faut que les technologies qui sont très vite obsolètes continuent à être améliorées. Et puis on peut penser un jour qu'on aura des diagnostics qui vont se faire auprès du médecin et du malade et qui seront connectés sur les mobiles. J'ai appris que c'est intéressant, qu'il y a plus de mobiles dans le monde que de brosses à dents. Non, mais je ne les ai pas comptés, mais c'est donc extraordinaire de voir que les technologies les plus modernes et les plus nouvelles seront très utiles dans la lutte contre la santé publique et les maladies infectieuses. Et puis c'est un métier passionnant, mais on ne s'ennuie pas. Hein.
Vous avez posé, puisqu'il s'agit aussi de parler d'économie et de coûts, je voudrais donner une information qui a été communiquée aux États-Unis il y a 2 semaines dans une grande conférence. Dans le cadre de l'étiologie des pneumonies chez les enfants de moins de 5 ans, il y a eu 2 études internationales. Une étude financée par la Fondation Gates à hauteur de 20 millions de dollars et une étude financée par la Fondation Mérieux et ses partenaires à hauteur d'un million d'euros. Sur la même durée de 5 ans, on aboutit au même résultat. Pourquoi ? Parce que quand nous mettons en œuvre des laboratoires, ils sont appropriés par des personnes formées et qui donc permettent des études multicentriques. Dans le cas de cette étude des pneumonies sur les enfants de moins de 5 ans, ça a concerné 10 pays à chaque fois. Et après, on a un chercheur à côté brillant, il y a des données statistiques, etc. On arrive à un moment donné aux mêmes conclusions. Donc, c'est pas qu'on fait des études low cost, c'est un élément pour dire, surtout pour ceux qui travaillent sur la recherche des coûts, c'est qu'à un moment donné, la façon de procéder, en s'appropriant, en donnant une place, et donc c'est une façon de travailler aussi, peut être générer des économies de coûts d'échelle dans la façon de procéder.
Monsieur Lina, vous avez... réagir.
Non, mais je suis parfaitement d'accord sur le fait que... mais je voulais revenir sur l'aspect très transversal et surtout, les Anglais parlent de sustainability of des dispositifs qui sont mis en place. Il faut que ce soit pérenne. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort international qui a été extrêmement important pour la réponse locale sur Ebola. Des labos ont été installés, des structures d'hôpitaux de Cambrousse, tels qu'on les conçoit nous, mais qui étaient vraiment des éléments de réponse extrêmement bien structurés, organisés, ont permis de maîtriser l'épidémie d'Ebola. Le phénomène est en train de se terminer. L'épidémie sera probablement déclarée éradiquée en Guinée au 28 décembre, si tout va bien. Il y a eu quelques cas de réémergence au Liberia du fait de mécanismes qu'on ne connaissait pas avant cette épidémie. Il semble qu'il y ait des porteurs qui puissent être porteurs du virus pendant plusieurs mois de façon asymptomatique et qui ont continué à contaminer comme ça. Mais une fois que cette épidémie va être terminée, reparlons-en dans un an. Qu'est-ce qui va rester comme structure localement là-bas ? C'est ça la question de fond. C'est-à-dire que si on est sur des histoires à un coup, dans le sens où on vient aider et puis après on se désinvestit, c'est pas rendre service finalement, parce qu'il y a besoin de construire dans la durée et surtout d'utiliser des structures qui sont mises en place à un moment donné pour répondre à une question précise, mais qui derrière peuvent avoir d'autres rôles, des rôles d'éducation. C'est ce que j'ai vu à Gekedou et à Macinta, qui sont donc deux villes de Guinée, où ils n'avaient plus de cas d'Ebola depuis plusieurs mois, mais ils s'étaient transformés en une structure d'information autour d'Ebola et des mesures qu'on pouvait faire pour éviter que ça recommence si jamais il y avait de nouveau un virus qui émergeait. Et puis ils se sont transformés aussi en structure de diagnostic du paludisme, parce que c'était un des diagnostics différentiels, donc ils continuaient à faire des recherches de paludisme, etc. Donc c'est... voilà. On construit dans deux sens du terme, à la fois en dur et en organisation des lieux médicaux différenciés, performants dans ces pays qui en ont besoin. Et derrière, il faut qu'on arrive à appuyer et fournir encore les moyens à ces structures de perdurer. Et malheureusement, les signaux qu'on a actuellement ne sont pas bons. Dans le sens où c'est en train de... Ils déconstruisent les centres de traitement Et donc, c'est de la ressource médicale qui disparaît, de la connaissance médicale qui disparaît, puisque les gens qui étaient tous ensemble et qui connaissaient bien, eh bien, vont se disperser partout. Donc, c'est là-dessus qu'il faut faire comprendre à ces pays qui, je crois, le saisissent maintenant, qu'un investissement sur la santé, vous auriez dû entendre ce que disait notre ancien président de la Croix-Rouge, j'ai oublié son nom, qui était infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, voilà, Marc Gentilini. J'ai jamais vu un infectiologue sermonner un ministre de la Santé comme il l'a fait. On était en Guinée, ouais. J'étais par terre, mais c'est pas possible, il peut pas dire des choses comme ça. Et tout le monde applaudissait, mais parce que c'était du bon sens. C'était ces fameux 2%. S'il en mettait trois fois plus, les problèmes, toute une série de problèmes disparaîtraient. Donc il y a un investissement, et je pense qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont besoin de nous pour ça, et on a montré qu'on est capable de le faire.
Ce que je voulais vous demander, c'est seulement sa faute, ou parce qu'on y va et on sort tout de suite, et alors ils laissent restent toutes seules, et ils ont d'autres options et priorités.
Ils ont plein de problèmes. Ils ont des problèmes de fin d'Ebola. Si je peux juste en parler 30 secondes. Le problème, c'est que Ebola a touché tout ce pays et tous les hôpitaux de ce pays. Qu'est-ce qui se passait? Tous les patients qui étaient suivis pour des maladies infectieuses chroniques ne venaient plus à l'hôpital. Et donc la tuberculose est repartie en vrille, le VIH aussi, parce que les patients ne voulaient plus aller à l'hôpital, parce qu'ils allaient attraper Ebola en allant à l'hôpital. Donc au bout du compte, ils sont en train maintenant de gérer la suite d'Ebola, qui est certes une bonne nouvelle, il n'y a plus d'Ebola, mais ils ont une recrudescence de cas de tuberculose et de VIH du fait que les structures hospitalières n'étaient pas en capacité d'absorber à la fois l'exercice Ebola, plus les patients chroniques qu'ils avaient, etc. Vous savez, nous, quand on a... Enfin, je suis un peu monoméniaque grippe, mais quand on a une grosse épidémie de grippe en France, on n'est pas capable de l'absorber, parce que nos structures de soins, qui sont dimensionnées pour qu'on puisse répondre à un problème d'infection et de pathologie chronique, si on a un gros pic épidémique, eh ben, ce que vous entendez dans les médias, c'est qu'il y a des patients qui attendent dans les couloirs. Mais c'est pareil chez eux, sauf que ce n'est pas la grippe, c'est le sida. C'est le neuropaludisme, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes pathologies.
Vous voulez réagir?
Non, j'ai simplement pour conclure un peu cette discussion. Quand vous imaginez qu'aujourd'hui, un pays comme le Liban, qui a 4 millions d'habitants avec tous les problèmes qu'il a, accueille 2 millions d'émigrés. Il y a 2 millions de réfugiés dans des conditions sanitaires. Je crois que ce n'est même pas la peine d'en parler. Vous voyez ce que ça peut être au point de vue, à tout point de vue, sécurité physique, eau, alimentaire et tout. Donc il ne faut pas s'imaginer une seconde qu'il n'y aura pas des foyers infectieux et peut-être des variantes de bactéries ou de virus qui vont nous tomber dessus. Je crois qu'on là, on est vraiment en train à nos portes, hein, parce que le Liban a une tradition, en particulier avec Lyon, très forte au point de vue médical, et on essaye d'y être à côté, mais on a l'impression vraiment d'être en face d'un tsunami. Hein.
Pour ajouter à ça, la dernière épidémie de choléra en Irak, ça a été des réfugiés syriens.
Le Kurdistan irakien, c'est la même chose, on y est. Bon, vous avez des réfugiés qui débarquent. Enfin, c'est des domaines qu'on ne veut pas trop voir, mais le côté sanitaire des mouvements de foule et de pays qui sont en guerre amène des conséquences très fortes dans notre domaine infectieux.
Alors, on ouvre maintenant à nouveau... l'option publique. Allez-y, monsieur.
Bonsoir. Je voulais poser une question par rapport au point qui a été soulevé par le professeur Bruno Lina sur la pérennité des investissements par rapport aux risques infectieux. Est-ce que ça n'allait pas pâtir par rapport aux investissements qui peuvent être nécessaires pour les maladies chroniques non transmissibles, type diabète, cancer, hors cancer viro-induit, bien sûr.
Oui, en fait, l'idée de ces structures, elles ont été montées à un moment donné pour une réponse précise qui était liée à l'épidémie d'Ebola. Et ce qui est navrant, c'est de les voir disparaître alors qu'elles peuvent être réutilisées à autre chose. Alors certes, ça peut être pour d'autres maladies infectieuses aiguës, mais bien évidemment aussi sur les pathologies chroniques. On a malheureusement trop souvent l'habitude de faire des constructions avec des objectifs qu'on dit en tuyau d'orgue. C'est-à-dire, on a une épidémie d'Ebola, on fait un centre de réponse à l'épidémie d'Ebola, et une fois que c'est réglé, ce centre, il ne sait rien faire d'autre. Donc, et c'est là où ils avaient commencé à travailler un petit peu de façon un peu plus transversale sur le paludisme, parce que c'était un diagnostic différentiel et que c'était utile. Et on peut parfaitement imaginer que ces structures puissent basculer sur d'autres prises en charge. C'est en fait une racine d'une structure hospitalière telle que nous on la conçoit dans notre pays, avec des capacités pour répondre à la fois sur des infections chroniques, sur des infections aiguës et sur des pathologies différentes. Après, il faut se méfier de ne pas vouloir aller trop vite non plus. On part de très loin. Donc si on a des structures qui sont pérennes et qui ont des capacités à la fois en termes de structure de réponse, mais aussi en termes d'équipement intellectuel pour répondre à ces questions. Si vous faites un hôpital contre le cancer à Macinta, qui va y avoir pour prendre en charge les cancéreux une fois qu'on aura fait le diagnostic? Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme, et on avait la capacité d'amorcer, alors ce n'est pas trop tard encore. Ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a un certain nombre d'ONG qui sont sur place, Médecins Sans Frontières reste sur place. Il y a une très belle ONG que j'ai découverte qui s'appelle Emergency, qui est une ONG italienne, qui construit des bâtiments durs avec des équipements performants, et c'est des éléments de réponse. La seule difficulté qu'on a, c'est que ces ONG utilisent des personnels européens qui font des cycles, et en fait ça ne crée pas de la connaissance locale. C'est ça, et on a besoin d'avoir des personnalités comme vous citiez qui viennent diriger ces structures et qui viennent faire de l'apprentissage pour les locaux. Voilà. Mais il faut faire plus que simplement la réponse à un agent infectieux, c'est évident.
Allez-y, monsieur.
Oui, bonsoir. J'ai une question pour monsieur Coudeville. Je voudrais savoir quand le vaccin contre la dengue sera disponible en Polynésie française. Parce que chaque année, il y a des épidémies pendant l'été austral, c'est-à-dire dans quelques semaines, qui mobilisent une partie importante de la population. Il y a un coût pour le touriste qui est évident. Et en plus, ils ont le chikungunya et le zaki. Mais alors, bon, si on pouvait se débarrasser de la dengue, ce serait pas mal.
Alors, en fait, la réponse, M. Mérieux a parlé des affaires réglementaires. Et là, c'est vrai que c'est quand même le point clé. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce qui est de la Polynésie française, alors c'est un peu particulier, mais ça dépend beaucoup de l'enregistrement au niveau de l'Europe. Effectivement, ça risque de prendre un peu de temps pour que le vaccin soit enregistré en Europe et pour pouvoir être utilisé, notamment dans ces zones-là. Après, il y a aussi des discussions qui sont en cours pour essayer d'accélérer un peu le processus. En même temps, c'est plus, quelque part, c'est pas le fabricant d'avoir la réponse par rapport à ça, c'est aussi aux autorités de santé locales, nationales en France, de créer les conditions pour que le vaccin soit disponible rapidement. C'est vrai qu'en l'état, il y a encore un peu de temps à attendre pour que le vaccin arrive, en l'état actuel. En fait.
Il y a encore des questions ?
Oui, bonsoir. Je voulais savoir quelle est la stratégie adoptée ou qui sera adoptée pour justement parer à ces fléaux migratoires et donc à cette propagation de maladies. Voilà.
Qui veut répondre à cette question si facile ?
Alors, la question, c'est comment lutter contre les fléaux migratoires ? Je pense qu'un élément de réponse, c'est déjà de permettre à des populations de vivre en toute santé dans les pays où elles se trouvent, parce que c'est souvent des migrations forcées, puisque c'est ce qui se passe en ce moment de la Syrie. Et puis il n'y a pas que les individus qui bougent, hein, y a les animaux, il y a les vecteurs, donc les moustiques, il y a le chikungunya à Montpellier, il y a tout ça qui évolue, donc elles sont sans frontières. Et effectivement, puisqu'il s'agit de parler d'économie de coûts, c'est des chiffres qui sortaient en mois de juin d'agences onusiennes, d'ONG internationales, en disant à l'Union européenne, au gouvernement, il faut plus de moyens pour contenir les populations syriennes déplacées. Et la réponse était, on n'a pas d'argent. Il y a des écrits là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu, et l'Allemagne qui accueille 800 000 réfugiés. On n'a pas ça en France. Hein. C'est considérable à l'échelle de l'Allemagne. Et le coût de l'Union européenne qui n'avait pas d'argent au mois de juin, ni les gouvernements, est considérable. Parce que à chaque fois, quand on répond dans l'urgence, c'est beaucoup plus cher. Et sans parler de l'impact social et de ce qui va suivre, et qui peut amener dans certains pays, le parti extrémisme en Allemagne est aussi en train de monter en flèche, ça peut amener le souci de dire non d'abord chez nous. Et c'est une erreur, parce qu'effectivement, on le voit bien et à travers les maladies infectieuses, c'est d'abord, elles sont sans frontières, donc il faut bien sûr travailler dans ces pays. Plus on travaille dans ces pays, plus on permet à des populations d'être dans la santé. Et le docteur Charles Marieux disait la santé et la formation sont indispensables à tout développement individuel et collectif. Voilà, c'est simple, mais si on ne fait pas ça, effectivement, les gens vont là où ils peuvent être en meilleure santé, à l'abri, et on ne pourra que s'exposer à ça. Donc voilà pourquoi, effectivement, quand on pose la question aujourd'hui, les maladies infectieuses une priorité, c'est pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation qui doit être affirmé, oui, c'est une priorité.
Il y a un point important que je n'ai pas souligné, Benoît, c'est que chaque fois que nous intervenons, nous créons un laboratoire, nous le faisons avec des scientifiques locaux. Et nous donnons le laboratoire au pays, à l'université. Donc ce sont des gens qui sont uniquement du coin et qui prennent le sujet en main. Alors nous, notre rôle, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obsolescence et la bonne maintenance du matériel, qui est compliqué. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas d'obsolescence dans les technologies. Parce que tout système biologique qui est en vase clos, en anaérobie, il meurt ou il éclate. Hein. Donc il faut vraiment irriguer les choses. Et c'est toujours important de former, de continuer à former. C'est fondamental. Tout ça va avec une éducation de base, une éducation permanente, une formation totale. C'est un travail qui est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement la science, c'est également la formation, c'est l'environnement, c'est la maison, c'est l'eau, c'est l'environnement. Tout ça va de pair pour arriver à lutter. C'est passionnant, mais c'est une vaste tâche. Alors,
avec ce commentaire, on est arrivé à la fin de la soirée. Merci beaucoup à tous pour avoir venu, aux intervenants.